à investir à plusieurs.
Je me suis posé énormément de questions sur, par exemple, des questions, on va dire, basiques, mais pourquoi il y a autant de différences entre ce qu'on peut retrouver, nous, en banlieue, par rapport à ce qui peut se trouver sur Paris, par exemple, en termes d'écosystème entrepreneurial. Comment ça se fait que, bah, peut-être dans les grandes entreprises, il n'y a pas autant de diversité que ça, tu vois. J'avais plein de questions qui sont venues avec cette expérience-là. J'avais peut-être ce besoin d'y répondre, tu vois. Et je pense que le déclic entrepreneurial, il est parti de là, tu vois.
Génie, talent, métier, débrouillardise. Il faut admettre que tout homme, quel qu'il soit, est un mélange de ces quatre facultés. Tout est dans leur proportion. Je suis Guy Berton, l'entrepreneur multirécidiviste, fondateur d'Investir à plusieurs, cabinet de conseil en management et administration d'affaires. Avec Débrouillard, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes talentueuses dans l'univers des affaires, du sport, de l'art, des associations et même de la politique, prêtes à nous dévoiler leurs inspirations, leurs prises de risques, leurs réussites, leurs échecs et toutes les leçons qu'elles en tirent. Je vous invite avec moi à plonger dans leur univers, s'inspirer de leur parcours afin de radicalement faire exploser nos objectifs. Parce que seul on va plus vite, ensemble on ira plus loin. So, 1, 2, 3, c'est parti. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec Awa Dramé, la fondatrice de Time to Start. Salut Awa.
Salut Guy, comment ça va?
Super. Écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va discuter de plein de sujets, notamment de Time to Start. Mais avant, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter succinctement.
Yes. Alors, déjà, moi, je suis ravie. Merci pour l'invitation. Donc, moi, c'est Awa Dramé. Je suis effectivement entrepreneur et notamment fondatrice de Time to Start, qui est une structure à impact social, qui vise notamment à accompagner les porteurs de projets et les entrepreneurs dans les quartiers qui sont issus de la diversité, comme on dit. Et puis, je suis aussi à côté, donc j'ai une boîte de conseil, donc je suis consultante et formatrice. Et puis, je développe différents projets liés à l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'une de mes activités fortes, ça reste quand même Time to Start, avec les programmes d'incubation qu'on développe un peu partout.
Time to Start, est-ce que c'est une association, est-ce que c'est un incubateur ou c'est une entreprise à part entière?
Alors effectivement, alors c'est un incubateur, enfin c'est un programme en tout cas d'accompagnement. Mmh. Et donc en termes de structure juridique, c'est une association. Mmh. Donc c'est une structure qui vise à avoir de l'impact. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce modèle.
Yes. Donc tu as dit que tu étais entrepreneur. Tu vas nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as lancé tout ça. Mais avant... serait intéressant de voir aussi ton background. Tu es issu d'un milieu entrepreneurial, peut-être tes parents, je sais pas.
Alors pas du tout, honnêtement. Si tu m'avais dit il y a 15 ans, 20 ans que je serais amenée à entreprendre, je ne t'aurais pas cru. Donc j'étais pas du tout destinée à ça. Et effectivement, je pense que mon parcours c'est-à-dire scolaire, a aussi influencé ma situation actuelle. Et après, c'est aussi des opportunités que j'ai pu avoir, un regard aussi sur la société qui m'a donné envie de m'engager. Et puis, à la base, effectivement, j'étais plutôt une personne assez introvertie. J'avais des études, on va dire... J'essayais de suivre un peu le cap de mes grands frères et grandes sœurs qui avaient fait des études. Mais voilà, je suis issue d'un quartier populaire. Donc, j'ai fait un bac classique. Ensuite, j'ai fait un BTS. J'ai fait une licence éco-gestion. Et durant cette période, on m'a proposé, pour des personnes qui sont issues des quartiers, il y a des parcours parfois qui permettent de faire une remise à niveau pour te préparer aux grandes écoles, donc au concours d'entrée aux grandes écoles. Et donc avec
tu parles de HEC, l'ESCP et consorts.
Exactement, exactement. Donc moi j'ai fait cette préparation-là. Au départ, c'était un peu particulier pour moi. Donc, j'ai fait une année où vraiment on a bossé pour essayer de se préparer au concours d'entrée directe. Et donc, j'ai réussi ce concours et j'ai fait donc un master management grande école à ESCP Europe avec une spécialisation en entrepreneuriat social.
Et pourquoi avoir choisi l'entrepreneuriat social, c'est quelque chose qui...
Alors, alors c'était vraiment une découverte au départ. J'avais vraiment envie de creuser, d'être dans les projets. Donc, je n'avais pas nécessairement cette notion d'entrepreneuriat à l'époque, tu vois, de se dire c'est de l'entrepreneuriat. Mmh. Mais en tout cas, j'avais cette vocation à vouloir créer, à vouloir faire, à vouloir mettre en place les idées. Et donc, du coup, il y a cette majeure entrepreneuriat qui s'est présentée à moi. Et je me suis dit que c'était une belle opportunité de pouvoir peut-être mieux découvrir l'entrepreneuriat. Et puis, comprendre finalement qu'est-ce que c'est, de manière très concrète, entreprendre. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai décidé de m'orienter là-dessus. Et c'était une très belle découverte parce que ça m'a vraiment suscité des vocations. J'ai pu voyager, rencontrer pas mal de monde, monter des projets. Et ça m'a donné envie de faire des choses. Après, paradoxalement, tu as la réalité, tu vois. Tu as le réel. Donc, quand tu es étudiant, tu dois payer l'école. Donc, j'ai fait l'école en alternance. Et puis après, quand tu as un grand groupe qui te propose un poste avec une rémunération intéressante, tu sais, quand tu es issu d'une famille modeste, ça te pousse aussi à te dire, là, c'est une opportunité incroyable, la sécurité. De pouvoir avoir ce job finalement dans un grand groupe et potentiellement évoluer avec un bon salaire. Et donc, j'étais un peu partagée parce que j'avais ce côté où j'avais besoin de sécurité et puis d'avoir un peu un salaire parce que c'est ce qui, pour moi en tout cas, c'était un peu ma vocation, de se dire je vais faire des études, avoir un bon salaire et puis pouvoir aider ma famille. Mais après, il y a aussi une espèce de feeling, un sentiment que tu as en interne qui dit peut-être que c'est pas fait pour toi, tu vois, ce monde de l'entreprise, ce monde des grands groupes, ce monde de la défense, et que tu as envie de partager d'autres choses, tu as envie d'aider d'autres personnes, et c'est là où tu es un peu en interne, en tout cas, moi j'étais un peu en ébullition, en mode, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'arrête, tu vois, est-ce que je quitte le monde de l'entreprise pour me lancer, mais si je me lance, c'est compliqué, tu vois, tu vas te retrouver au chômage, au début c'est pas simple, ou alors est-ce que je garde la sécurité? Et donc, j'étais amenée vraiment à cette situation, à cette prise de décision. Et très vite, c'était assez naturel en réalité. J'ai quitté le monde de l'entreprise. En tout cas, je ne suis pas restée. Je n'ai pas accepté l'offre. Et je me suis retrouvée au chômage.
Ah, t'es même pas partie... t'as pas commencé avant de...
Alors si, j'ai commencé. Donc, j'ai travaillé pendant... j'ai travaillé alors en alternance. Je suis restée un an et demi en alternance. Ensuite, moi, j'ai fait un premier CDD dans ce grand groupe qui m'a proposé de rester, du coup. Mmh. Donc, ça s'est très bien passé. C'était vraiment une très belle expérience. Et ensuite, on m'a proposé un autre poste. Mais c'est là que j'ai refusé. Tu vois. Donc, en réalité...
Tu avais déjà un CDI ou tu étais toujours en CDD?
Non, j'étais en alternance, puis en CDD. Donc, au total, c'est 2 années, tu vois. C'est 2 années à peu près d'expérience en plus. Donc, j'étais encore étudiante quand j'ai commencé mon alternance, évidemment. Et puis ensuite, à la fin de cette alternance, on m'a proposé un premier CDD que j'ai accepté. Donc, je crois que c'était à peu près 6 mois. Et à la fin de ce CDD, on m'a proposé un autre job, donc de rester, de continuer dans l'entreprise. Et c'est à ce moment-là que j'étais un peu en tension et j'ai décidé de refuser.
Mais donc, quand tu refuses, est-ce que c'est parce que tu as une alternative, parce que tu as un truc que tu as déjà commencé en parallèle, ou là, tu refuses et tu recommences from scratch en commençant déjà par penser à l'idée, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais lancer?
Franchement, c'était... J'avais pas d'alternative du tout. J'avais juste une espèce d'envie, un sentiment, tu vois, de vouloir m'engager, de vouloir entreprendre. J'avais des idées, j'avais vraiment ce besoin de le faire. Tu vois, j'avais ce besoin de me retrouver avec moi-même parce que j'avais vécu quand même... Deux années d'études où j'avais voyagé, j'avais rencontré du monde, j'avais testé des choses. Et du coup, le fait d'être un peu enfermé dans ce monde de l'entreprise, c'était assez frustrant, tu vois, pour moi. Et il manquait quelque chose, même s'il y avait la sécurité, même s'il y avait le bon salaire, on va dire. J'y arrivais pas, tu vois. Et donc, j'ai arrêté sans aucune sécurité, sans aucune alternative, juste avec cette volonté de vouloir faire, tu vois. Et donc voilà, donc je me suis retrouvée vraiment au chômage, hein. C'était je me retrouve au chômage. Mais par contre, j'ai fait quelque chose que j'ai appris en école, c'est aller prendre des cafés. On m'a dit, le réseau, c'est important. Le réseau, c'est la clé, donc il faut aller prendre des cafés, tu vois. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire, c'est envoyer des mails, proposer des cafés et puis parler de ce que j'avais envie de faire. Parce qu'il faut savoir
t'avais
aussi
quand même
j'avais
des pistes,
énormément travaillé sur justement
t'avais
les parcours.
Tu avais quand même des pistes comme ça où tu voulais aller ou des sujets en tout cas,
Oui,
des thèmes qui te tenaient à cœur.
Exactement, j'avais quand même ces sujets-là. J'avais parce que du coup, j'avais vécu quand même une expérience assez incroyable. Tu te rends compte, une jeune fille dans un quartier qui a grandi en banlieue, qui se retrouve un peu, entre guillemets, propulsée dans le monde à la fois des grandes écoles, donc le monde un peu parisien, et puis le monde aussi de la grande entreprise, tu vois. Donc j'avais quand même ce gros basculement qui m'est arrivé pendant 2 ans, et en réalité, ça a amené beaucoup de réflexions en moi, tu vois. Je me suis posé énormément de questions sur, par exemple, des questions, on va dire, basiques, mais pourquoi il y a autant de différences entre ce qu'on peut retrouver, nous, en banlieue, par rapport à ce qui peut se trouver sur Paris, par exemple en termes d'écosystème entrepreneurial. Comment ça se fait que bah, peut-être dans les grandes entreprises, il n'y a pas autant de diversité que ça, tu vois. Donc, j'avais plein de questions qui sont venues avec toute cette expérience-là. J'avais peut-être ce besoin d'y répondre, tu vois. Et je pense que le déclic entrepreneurial, il est parti de là, tu vois. Il est parti de ce besoin de répondre à des questions, des problèmes que je voyais en fait dans des décalages que j'ai pu constater avec ma petite expérience et j'avais cette envie de me dire mais en fait il faut qu'on fasse bouger les choses, il faut qu'on fasse, il y a tellement de choses à mettre en place, il faut y aller, tu vois. Et donc c'est ce sentiment là je pense qui a été le déclic et qui m'a poussé à refuser entre guillemets la sécurité pour l'entrepreneuriat et voilà, ça a commencé comme ça.
Yes. T'as quand même été heureuse pendant ces 2 années-là. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu apprends pendant 2 années en corpo? Déjà, c'était quoi ton périmètre où tu étais déployé?
Alors, j'étais en gestion de projet RH. J'ai énormément appris, déjà même sur moi-même, sur ma posture, parce que c'était vraiment ma première grosse expérience professionnelle. Parce qu'avant, j'étais plutôt des petits boulots étudiants pour dépanner, mais je n'avais pas eu vraiment de grosses expériences professionnelles. Et donc ça, j'ai énormément appris sur moi-même, me découvrir ce que je sais faire, ce que je suis en capacité de mettre en place, prendre confiance en moi, ça a été très important. Et sur les autres aussi, sur leur manière de réfléchir, sur ma relation avec les autres, sur ma capacité à m'adapter. Il faut savoir que j'étais une personne assez introvertie depuis toujours. Et le fait de basculer comme ça dans un grand groupe avec bah, des responsabilités, ça te sort de ta zone de confort. Et puis à côté de ça, il y avait tout le parcours d'étudiante, pareil, qui a été extrêmement enrichissant pour moi. Donc oui, ça a été un vrai poids. Et je pense que sans cette expérience, je n'aurais pas eu le déclic finalement entrepreneurial, tu vois. Je n'avais pas eu ce déclic de me dire il faut que je me lance, tu vois. Donc ça a été énormément enrichissant pour moi et puis j'en tire que du bénéfice. Hein. C'est pour moi, c'était une période très positive. Une période très positive, même si voilà, il y a toujours des hauts et des bas, des moments difficiles. Je sais que ça m'a permis de me construire.
Désolé, je t'ai coupé.
Ça m'a permis aussi de. Non, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire à l'époque, c'était de m'engager en faveur de l'entrepreneuriat, tu vois, faire en sorte que les entrepreneurs autour de moi, parce que toute cette expérience, ça m'a permis aussi de voir, j'avais un peu des œillets, tu vois, je savais pas qu'il y avait autant de potentiel autour de moi, et le fait, j'ai fait par exemple un mémoire de recherche sur l'entrepreneuriat issu de l'immigration, pour essayer de comprendre un peu quelles étaient les intentions entrepreneuriales des personnes qui sont issues de l'immigration, qui habitent dans les quartiers, et j'ai vu vraiment tous ces talents, j'ai vu tout ce potentiel. Je me suis dit, bah, en fait, il faut aller les accompagner. Il faut proposer des choses de qualité pour ces profils-là. Et donc, c'est grâce à tout ce parcours, ce processus, que j'ai pu arriver à cette réflexion-là.
Est-ce que tu as senti à des moments que tu étais traité différemment? En tout cas, je ne sais pas dans quelle proportion est-ce que l'entreprise dans laquelle tu bossais, il y avait... des gens, je ne vais pas dire des gens comme toi, en tout cas des gens qui de prime abord ne sont pas en tout cas destinés à ces milieux-là, en tout cas qui ne sauraient pas arriver là s'ils n'étaient pas passés par des écoles comme HEC ou l'ESCP. Est-ce que tu as eu à un moment donné des sentiments, en tout cas ce sentiment où tu es un peu comme l'intrus, je sais pas, l'intruse?
Oui, alors j'ai eu, alors à différents niveaux, hein, même si pour moi, franchement, l'école de commerce que j'ai fait, elle m'a énormément apporté, ça a été vraiment une belle expérience, mais évidemment, tu ressens quand même qu'on n'a pas nécessairement les mêmes codes, la même manière de voir les choses, mais c'est pas nécessairement un problème, mais dans tout mon parcours, et je pense que jusqu'à encore aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, je le ressens encore parfois. Je pense qu'il y a quand même ces. Parfois, c'est des clichés, parfois, c'est des espèces de. Je sais pas moi, des pensées un peu fermées ou des choses qu'on peut s'imaginer sur certains profils comme le mien. Donc, oui, je le ressens, je l'ai ressenti. Par exemple, quand j'étais en recherche de mes premiers contrats d'alternance, ben, j'ai ressenti ce côté un peu. Bah oui, tu es issu d'eux, tu vois. Donc ça, je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui. Et au début, c'est vrai que ça me gênait à certains moments. Maintenant, voilà, je suis passée quand même à un cap où, c'est pas que c'est pas important, mais je suis passée au-dessus de ça. Tu vois. Je suis passée yes. au-dessus de ça et je pense que toutes les personnes, notamment les femmes noires, qui veulent par exemple entreprendre, qui ont envie, je ne sais pas moi, de tel ou tel poste, je pense qu'il faut pas qu'on se bloque, tu vois. Il faut vraiment avoir cette ambition de faire malgré, on va dire, les regards des autres qui peut être là. Quand on a envie, je ne sais pas, quand on a un projet, par exemple, je pense qu'il faut quand même tenter. Maintenant, je pense qu'il faut un peu, entre guillemets, s'imposer, tu vois. Y a ce côté où, en gros, on est là parce qu'on doit l'être, tu vois. Et il faut qu'on assume ce rôle, c'est qu'on le mérite, entre guillemets, ou en tout cas, on a les compétences pour être à notre place. Donc, il faut prendre cette place, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas se brider par rapport à ça.
Yes. Donc, on va parler un petit peu de tes premiers rendez-vous café et tout. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire lorsqu'on a déjà un carnet d'adresses, parce que, bon, on est quand même passé par une grande école, donc on a un minimum de réseau. On a quelques pistons, entre guillemets, pour justement provoquer ces premiers rendez-vous café.
Alors, je pense qu'il faut les provoquer. Moi, à l'époque, il y avait moins ces réseaux type LinkedIn, Facebook, Insta. Donc, aujourd'hui, on a énormément de facilité de pouvoir contacter beaucoup de monde. Donc, il faut en profiter. Et je pense qu'effectivement, ça commence par à côté, tu vois. Ça commence par un professeur. Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Ça commence par un professeur que j'ai eu, ça commence par un ami, ça commence par l'ami de l'ami, tu vois. Donc, on a tous du réseau, déjà. On a tous du réseau de plus ou moins proche et il faut l'exploiter, tu vois. Donc, il faut vraiment en profiter. Il ne faut pas hésiter à aller demander. Je pense que parfois, on peut être... En tout cas, moi, j'avais cette posture parfois un peu d'hésitation, de peur de déranger. Mais en réalité, si la personne n'est pas intéressée, elle te le dira. Tu vois, tu me disais au début, voilà, j'ai fait ce podcast, je voulais te contacter, je me suis dit, je vais essayer, puis si elle me répond, voilà, c'est très bien, ou si elle ne me répond pas, tant pis. Bah, tu vois, c'est vraiment cette mentalité-là, je pense qu'il faut avoir.
Yes.
Il faut être en capacité, donc, entre guillemets, de se débrouiller, quoi.
D'accord. Donc, avant justement que tu me parles de ces premiers rendez-vous-là, donc, tu peux un peu être plus précis sur, je sais pas, un ou deux sujets qui te tenait à cœur, que tu voulais éventuellement traiter pendant tes premières expériences entrepreneuriales?
Alors, le premier sujet, c'était clairement l'accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs, et notamment hors Paris, c'est-à-dire dans l'écosystème plutôt banlieusard, pardon. Des gens bah, comme moi qui, entre guillemets, pourraient sortir d'une petite ville, d'un petit quartier et qui auraient envie de faire... De monter une entreprise, peu importe, bah, puisse accéder à un parcours d'accompagnement, donc une expertise de qualité, puisse accéder à un réseau, puisse accéder à un financement. Mmh. C'était vraiment le premier besoin, tu vois, c'était ça.
C'est quelque chose qui n'existe pas, en tout cas, en tes recherches, qui n'existait pas de prime abord à cette époque-là, quoi.
Alors, si, ça existait, mais pas de la manière, on va dire, que j'estimais pertinent pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, dans les quartiers, par exemple, on a une vraie diversité de profils. on a une vraie mixité de parcours, d'intentions entrepreneuriales. Tu peux avoir des gens qui ont un bac plus 5, qui sont cadres, qui ont envie d'entreprendre. Tu peux avoir des gens au chômage qui ont envie d'entreprendre. Tu peux avoir des étudiants. Tu peux avoir des gens sans diplôme qui ont envie d'entreprendre. Donc, tu vois cette mixité-là qu'il y a dans nos quartiers. Mais il faut être en capacité de répondre, tu vois. Il faut être en capacité de proposer des offres d'accompagnement, des services d'accompagnement qui correspondent à cette mixité de profils. Et c'est ce qui me manquait, tu vois, à l'époque. Me dire, je trouve que ce n'est pas assez flexible, agile. Et deuxièmement, je voulais aussi, à certains niveaux en termes de qualité, je pense qu'il faut qu'on, quand on parle de l'entrepreneuriat, on parle d'excellence. Quand on parle d'entreprendre dans les quartiers, on parle d'excellence aussi. Quand on parle de monter des projets, il faut que vraiment on hausse le niveau, tu vois. Il ne faut pas qu'on soit dans ce côté où on va aller, tu vois, quémander ou autre. Non, il faut qu'on soit dans une posture où les gens ont envie d'investir chez nous. Et c'est vraiment cette posture-là que j'essaye d'adopter.
Yes. Donc, tu parles avec qui les premières personnes avec qui tu parles, c'est...
les premières personnes, franchement, je pense que les premières personnes avec qui je parle, c'est un ancien prof de SCP, hein, avec qui j'avais, je crois que c'est lui qui nous avait accompagnés sur le parcours entrepreneurial, et enfin sur la majeure quoi, entrepreneuriale, et donc, je pense que c'est avec lui, et puis avec son assistante ensuite, qui me met en relation, en fait, c'est de la mise en relation au fur et à mesure, qui me met en relation avec quelqu'un qui est dans l'écosystème entrepreneurial, qui me met en relation avec une autre personne qui monte un même projet, et du coup, ça te fait des premières expériences, des premiers contacts, des premières pistes de travail sur ton projet, ça te fait aussi plus de réseau. Donc c'est les premiers, je pense que les premiers contacts, c'est vraiment des gens que j'ai rencontrés, tu vois. C'est même pas des gens que je connais pas, que je vais solliciter sur les réseaux, c'est vraiment des gens que je connais et que je pense pertinents pour le projet.
Yes.
Et après, j'ai eu une première expérience dans l'accompagnement. Et ensuite, au fur et à mesure, tu développes des choses.
Mmh. Et là, on n'est pas encore clairement sur le projet Time to Start. Est-ce que tu as lancé des pilotes, tu as testé autre chose avant ou
Alors oui, Alors c'est surtout via une première expérience donc dans l'accompagnement des entrepreneurs. Donc j'ai intégré un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs pour avoir de l'expérience, mm-hmm. pour rencontrer des entrepreneurs, pour apprendre des difficultés. C'est un peu une formation, tu vois, pour moi. Pour apprendre, pour voir comment on accompagne, comment on met en place des programmes, donc c'était un peu une phase test finalement. En tout cas, pour moi, ça m'a permis d'apprendre et de bien structurer par la suite Time to Start.
Là, tu es toute seule ou tu as déjà des personnes avec qui tu peux éventuellement te mettre en partenariat?
Alors, j'ai la chance d'avoir des personnes qui travaillent avec moi. Que j'ai pu embaucher finalement assez récemment. Donc, on a une équipe à peu près de 5 personnes qui travaillent sur le projet avec moi. Donc, ça va de l'accompagnement des entrepreneurs à la communication, à la partie plus administrative.
En fait, je parlais du mot au moment de... au moment où tu étais en train de benchmarker pour...
Pardon. Alors, oui, très bonne question. Donc, au moment où... je finalise ma première expérience, donc qui se termine. Je m'appuie sur justement les personnes avec qui j'étais durant cette première expérience pour reprendre avec Time to Start, tu vois, pour lancer Time to Start. Après, il y a eu, on va dire, c'était moi qui avais le lead sur le projet, mais j'étais quand même accompagnée, même si au final, ça s'est pas fait. Mais j'ai pu bénéficier finalement aussi de leur expérience, de leur expertise pour monter le projet tel qu'il est aujourd'hui. J'avais quand même ce lead où j'étais un peu seule, on va dire, sur la partie opérationnelle, mais j'avais des gens autour qui pouvaient me conseiller, qui pouvaient m'aiguiller, qui m'ont donné de l'appui sur le démarrage avec plus ou moins de réussite. Mais effectivement, j'ai pu, on va dire, capitaliser sur mes précédentes expériences pour m'appuyer sur déjà 2 ou 3 personnes qui étaient autour de moi. Mmh.
Yes. Avant de me parler justement du jour 1 de Time to Start, est-ce que tu peux me dire un peu concrètement, à l'issue de cette première expérience, qu'est-ce qui en ressort? Quels sont les grands learnings qui aujourd'hui t'aident à driver Time to Start ou alors inspire certains éléments que tu as eu à implémenter au niveau de Time to Start? Deux ou trois éléments.
Ok. Alors, déjà, l'expérience que j'ai eue, parce que c'était de 2002 ans d'expérience, ça m'a énormément appris sur déjà les profils d'entrepreneurs, sur les modèles d'accompagnement, sur les experts qu'il fallait chercher, qu'il fallait solliciter pour bien accompagner les entrepreneurs. Donc, en fait, ça m'a donné une très bonne base en termes d'organisation, tu vois, de comment on organise l'accompagnement, comment on monte un incubateur. Donc, ça m'a donné vraiment cette expérience-là. Et après, la question, c'était comment cette expérience-là te permet derrière de construire et d'améliorer, en tout cas, une méthodologie qui soit encore plus efficace pour les entrepreneurs. C'était vraiment, je pense que ça m'a permis surtout d'avoir ça, cette base organisationnelle et savoir qu'est-ce qui est nécessaire pour monter un programme d'incubation.
Yes. Du coup, c'est quoi le jour 1 de Time to Start? Est-ce que la structure avait déjà une présence juridique ou alors tu as d'abord eu à mettre des choses en place avant d'aller créer concrètement la boîte? Bref, parle-moi du jour 1 de Time to Start selon toi. Comment est-ce que tu as vécu ça, quoi?
Ouais, le jour 1, je crois que j'ai envie de l'oublier, le jour 1. c'était assez compliqué. C'est assez compliqué parce que j'avais pas d'argent, j'avais pas de salle de formation, j'avais pas de lieu. Donc, c'est un peu bizarre quand tu veux monter des projets d'accompagnement et que t'as pas d'espace, t'as pas d'argent, tu peux pas payer tes formateurs, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc, on a commencé à mettre en place des briques sans avoir monté la structure. On a commencé un peu à tester sans monter la structure. Mais c'était assez compliqué en soi parce que j'ai pas nécessairement peut-être les bonnes personnes autour de moi et c'est vrai que quand t'attends peut-être un peu de soutien et que tu n'as pas forcément, c'est assez compliqué. Et puis quand t'as pas d'argent, en fait, tout court, il faut se débrouiller, quoi, tu connais, il faut se débrouiller. donc il faut aller chercher, il faut s'appuyer sur son réseau.
Débrouillard.
Ah ben c'est exactement ça, c'était vraiment la débrouillardise à 100%. C'était demander à tel que tu connais de venir faire une formation, de demander à un tel de te prêter une salle pour faire tes formations, demander à un tel de t'appuyer sur du coaching, tout ça sans argent. Donc il faut être en capacité de convaincre, tu vois, les personnes de ce que tu fais, de la pertinence de ce que tu fais, et que ça va amener quelque chose de plus impactant, de plus fort demain, tu vois. Donc, c'est vraiment cette difficulté-là au début, je pense, c'est le jour 1, c'est comment tu montes un programme d'incubation sans lieu, sans argent, sans espace et potentiellement avec très peu de formateurs autour de toi. Mais ce n'est pas impossible parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, on peut tester des choses avec peu de ressources. Il faut juste que l'organisation, l'objectif, la vision soient bien posées. Parce qu'avec la vision, tu peux aller convaincre, tu vois. Quand tu as une vision qui est bien, qui est clairement définie, tu peux aller convaincre des gens, des personnes de rentrer dans l'aventure avec toi. Donc, il faut poser sa vision. Et je pense qu'on a réussi à faire plus ou moins bien au départ. Ça s'est affiné avec le temps. Et après, il faut être un bon commercial pour aller chercher l'expertise que tu n'as pas en interne. Et surtout, aller la chercher sans nécessairement la payer, tu vois. Donc,
c'est-à-dire quelqu'un qui va justement comprendre le projet et accepter de mettre la main dans la pâte, sachant que derrière, tu as parlé d'association, mais est-ce qu'il y a quand même un modèle économique? Est-ce que là, tu parles d'aller chercher justement les ressources, les personnes qui vont venir exécuter le programme, mais les personnes qui vont suivre le programme, comment est-ce que toi, tu pars justement aussi les sourcer? Comment est-ce que tu réussis à les convaincre? T'as un background, t'es passé par les SCP, mais est-ce que c'est pour autant que forcément les gens vont voir en toi quelque chose qui va les inciter éventuellement à dealer avec toi pour potentiellement essayer d'exécuter leur projet entrepreneurial qu'ils mijotent depuis des mois, des années?
Oui, alors effectivement... Effectivement, il faut être en capacité de bien mettre en valeur sa proposition de valeur. Qu'est-ce que tu vas leur apporter? C'est quoi le problème pour eux que tu vas résoudre? je pense que ce qu'on a réussi à faire au départ, c'est ça, c'est cette bonne communication en disant, ben voilà.
Même où tu les trouves, moi je me demande comment tu fais, est-ce que tu vas dans les quartiers comme c'est, puis tu parles aux gens en route, comment est-ce que tu réussis à
Franchement, je me suis débrouillée à la mano. Hein. J'allais dans les salons, par exemple, j'allais dans les salons, au salon de l'entrepreneur, au salon de tel ou tel quartier. J'avais pas laissé sur mon stand, j'avais imprimé des flyers chez le mec d'à côté à 10 euros. Et j'arrivais dans les salons sans stand, je me travaillais et hop, je passais avec mes flyers, je les distribuais, tu vois. Donc, j'ai commencé à faire ça, j'ai proposé à certains partenaires, par exemple des missions locales ou autres, de faire des interventions pour parler un peu de ce qu'on fait, pour essayer de challenger les entrepreneurs. Je participais à des événements où je rencontrais les entrepreneurs, tu vois. Donc j'étais sur le terrain, franchement j'étais sur le terrain pendant longtemps. J'étais à la rencontre des gens, j'échangeais. J'ai mis les mains dans le cambouis, quoi. Et les gens, oui, j'allais chercher à la main, tu vois. J'allais chercher à la main, je parlais de ce que je faisais, je parlais de nos forces, de quoi ce qu'on pouvait leur apporter. Et après, ben voilà, tu commences à avoir quelques candidatures. Ben après, tu montres ce que tu as fait, tout simplement. Au début, j'avais pas de financement, comme je t'ai dit. J'ai fait une promotion avec les moyens du bord. J'ai montré les résultats. Et après, j'avais des premiers partenaires. Je suis partie voir la région Île-de-France en leur disant, ben regardez les premiers résultats. Je suis partie, j'ai fait un concours qui s'appelle la Fabrica Viva, j'ai remporté. Ça m'a donné aussi un grand boost pour le projet. Et après, voilà, c'est step by step. Tu commences à construire des choses, des briques sur ta structure, tu vois. Tu commences
dans,
avec
dans la première promotion, tu montres. Les professeurs, et ils n'ont pas été rémunérés, si je comprends bien. Je veux dire, t'as pas, en tout cas, je ne sais pas si on les appelle des professeurs ou des... comment est-ce que toi tu les appelles ces
alors,
cadres
c'est plutôt des intervenants, des coachs, des formateurs. Donc effectivement non, ils n'étaient pas rémunérés.
Pour ceux qui suivent justement ces formations là au début, du moins pour moi pour la première promotion, eux ils payent bien évidemment. Si oui, ça coûte combien au début?
Alors eux ils payent pas en direct. Donc je fais en sorte que pour un porteur de projet, ton accompagnement soit pris en charge par un partenaire. Tu vois. Donc, ce n'est pas eux qui vont payer en direct, mais ça peut être un partenaire comme la région, Île-de-France, ça peut être des entreprises qui vont payer pour aider des porteurs de projet à se faire accompagner. Et donc, mes formateurs, pour la première promotion, clairement, ils n'ont pas payé, tu vois. Ils n'ont pas payé. J'ai vraiment essayé de les convaincre avec ma vision, comme je disais au départ. Faire en sorte qu'ils puissent être convaincus de l'intérêt de ce projet-là, tu vois. Et c'était ça ma difficulté, c'était ça mon objectif principal, c'est de convaincre que le projet que je porte, que l'activité que je porte, non seulement elle va avoir un impact, elle est pertinente et elle répond à un besoin réel, tu vois. Et c'était vraiment ces points-là que j'ai essayé de mettre en place.
Yes. Donc la première strate, ça devait être d'aller chercher à chaque fois, pour chaque promotion, un partenaire stratégique qui va comprendre l'importance et la valeur de d'implémenter ce genre de choses et financer justement pour ses apprenants. Et est-ce que c'est quelque chose
c'est
que tu as...
Exactement.
C'est quelque chose qui est toujours actuel aujourd'hui ou c'est un modèle hybride?
C'est un modèle hybride. Donc, on a effectivement aussi une capacité à aller chercher des prestations de services. Parce qu'on a des outils maintenant qu'on a développés, on a notamment une plateforme d'incubation digitale, donc on a des choses qu'on met en avant, et puis on a toujours effectivement cet aspect partenaire stratégique et financier qui soutient notre action. Donc c'est vraiment un modèle qui est hybride.
Yes. Aujourd'hui, c'est quoi les critères pour postuler? Est-ce que vous prenez tout le monde?
Alors nous, on ne prend pas tout le monde. On a une phase de sélection des projets. Donc, il faut aller sur le site internet, poser son projet. Et puis ensuite, on passe les entretiens, des entretiens devant des comités de sélection. Donc, c'est des professionnels, ce sont des entrepreneurs qui vont écouter les parcours, qui vont écouter la motivation, qui vont écouter l'adéquation personne-projet, le potentiel du projet, l'impact. Et sur ces critères-là, on va sélectionner des entrepreneurs.
Ok, pour quelqu'un qui réussit justement à passer ce stade de sélection, c'est quoi la promesse? Peut-être pour reformuler la question, est-ce que tu peux me pitcher Time to Start? lorsque, en fait, tout le process de la présélection jusqu'à la validation du profil et l'accompagnement et l'exécution de son projet jusqu'au financement avec les différents partenaires. Parce que j'ai vu là sur votre site, il y a des partenaires vraiment assez intéressants, que ce soit la BPI France, des grosses boîtes comme Accenture, l'Île-de-France. À toi le micro, tu prends pendant 5 minutes, tu développes un petit peu le process vraiment dès le début jusqu'au bout de la chaîne, quoi.
Ok. La promesse qui est proposée avec Time to Start, c'est vraiment l'accompagnement entre guillemets personnalisé sur mesure au plus près des besoins et des attentes des entrepreneurs. Donc évidemment, on a une base qui est liée à des ateliers qui sont animés par des experts, à des séances de codev, à du suivi, du mentoring aussi beaucoup par pair. Et puis, on a cet aspect individuel qui est assez fort chez nous. Donc, on essaie vraiment d'à la fois aller chercher l'expertise dont on a besoin, c'est-à-dire que tout n'est pas en interne. Quand on doit aller, aller trouver un expert juridique ou autre, on est en capacité d'aller chercher. Et puis, on a un suivi d'équipe qui est assez personnalisé, qui est assez présent. Et donc, c'est aussi notre force, c'est cette capacité à la fois de proposer un accompagnement d'excellence qui peut être collectif, mais surtout individuel et personnalisé. Et puis, l'objectif, c'est de pouvoir répondre aux attentes des entrepreneurs. Quand j'ai un porteur de projet qui vient, qui est au stade de l'idée, qui a besoin de structurer son projet, notre objectif, ça va être de l'accompagner à structurer son projet. Quand j'ai un entrepreneur qui dit qu'il veut travailler sur sa levée de fonds, on va lui proposer un accompagnement qui est orienté levée de fonds, tu vois. Donc, l'idée, c'est d'être au plus près des besoins et des attentes des entrepreneurs. C'est un peu la force, je pense, des Time to Start et la proposition qu'on souhaite mettre en avant parce que, comme je disais au départ, on a quand même une forme d'intention entrepreneuriale qui est très large, c'est-à-dire que les profils sont très hétérogènes, donc on ne peut pas non plus avoir des accompagnements qui sont trop opaques et qui ne répondent pas à toutes les attentes.
Yes. On va revenir sur les différents, tu as dit coach, c'est comme ça que tu les appelles. Avant, je voulais te demander, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de 2 ou 3 profils de la première promotion est-ce que tu peux nous donner un petit peu leur situation aujourd'hui, est-ce qu'ils ont lancé des trucs, si oui, est-ce que c'est jusqu'où est-ce qu'ils sont allés, est-ce que les structures existent encore aujourd'hui?
Oui, je peux, la première promotion effectivement je peux donner des exemples. La première auquel je pense
et ça date de quand, ce serait bien d'avoir un petit peu la date aussi.
Oui. Alors, je vais te donner des exemples. Donc, quand je pense à la première promotion, donc c'était une petite promotion, donc c'est assez facile de pouvoir donner des exemples. Donc, je pense à la fondatrice d'Expanders, qui est Ella Atmani, qui a monté une boîte dans la tech, donc qui est une femme entrepreneur dans la tech et qui a lancé en fait une plateforme de mise en relation entre des experts et puis des entrepreneurs. Et du coup, elle a vraiment créé un algorithme qui permet de faire le matching entre les besoins et les experts. Et donc, son projet avance très bien. Enfin, son entreprise avance très bien puisqu'elle a finalisé une levée de fonds tout récemment. Enfin, il y a quelques temps maintenant. Elle est aussi sur d'autres levées de fonds. Donc, ça s'appelle Expanders, si tu vas aller regarder. C'est vraiment top ce qu'elle fait. Et puis, dans un autre registre, je pourrais te donner aussi... le profil de Catherine qui a monté la Force des Pionnes, qui est en fait un centre d'activité sportive adapté notamment pour des personnes qui ont subi des lourdes maladies. Donc elle a ouvert son centre sur le Blanc-Mesnil en 93 et donc elle a aussi été extrêmement résiliente dans son parcours et son activité est vraiment top. Donc, voilà 2 profils d'entrepreneurs auxquels je pense sur la première promotion.
Yes. Si on prend un peu le cas de Expanders, est-ce que c'était un accompagnement global ou c'était spécifiquement juste sur la levée de fonds?
Alors, pour elle, c'était plutôt sur la structuration, parce qu'au moment où elle a intégré notre programme, elle était au début du projet, elle était encore au stade de l'idée. Tu vois. Mm-hmm. Donc, là, à ce moment-là, l'idée, c'était plus de l'aider à structurer le business, quoi, Donc, valider la proposition de valeur, valider le business plan, valider les besoins, valider la vision, le projet en lui-même. Donc, c'était plus un accompagnement qui était orienté structuration.
Yes. Donc, tu as dit que vous n'allez pas hésiter à aller outsourcer les talents, du moins les coachs qui pourraient éventuellement accompagner vos différents apprenants. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, c'est quoi qu'on retrouve comme profil ou alors comme expertise dans l'écosystème de Time to Start?
Alors, nous, notre objectif, c'est d'aller chercher l'expertise qui correspond aux besoins des entrepreneurs. Et souvent, bah, les besoins, ça va être des besoins, par exemple, juridiques, ça peut être des besoins comptables, ça peut être en marketing et com, ça peut être sur les sources de financement, ça peut être sur le business plan financier, notamment. Donc, c'est vraiment toutes ces expertises-là qui sont, en fait, c'est 360, tu vois, ouais. De l'idée à comment je fixe mes prix, à comment je vais aller communiquer, à comment je structure la partie qui est plus, comment dire, financière, comptable, ce genre de choses. Uh-huh. Et donc, on a des avocats dans notre réseau, on a des experts comptables. On a des marketeurs, on a des financiers. L'idée, c'est, encore une fois, on ne peut pas internaliser toute cette expertise. C'est pour ça qu'on va aller la chercher à l'extérieur. On a des grosses marketeurs. Voilà, on a vraiment des profils assez, assez larges. Et puis, on va la chercher à la fois sur des profils experts. Et puis, on va aussi aller chercher la compétence au sein de grands groupes. Puisqu'il y a des grands groupes qui ont cette expertise-là en interne et qui ont envie de la partager avec des plus petites structures. Et donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de faire cet intermédiaire entre l'expertise qui est à l'extérieur et les besoins des entrepreneurs qu'on accompagne.
Oui, mais les grands groupes, ça en coût. Ou alors, ça fait partie intégrante du partenariat que tu as avec ces grands groupes-là. Parce que s'il fallait qu'un petit entrepreneur de banlieue se paye des services d'un consultant... d'Accenture ou de Mazar,
Alors nous, par exemple, on a des partenariats avec KPMG ou avec Accenture, donc effectivement, c'est nous qui gérons le partenariat, le lien finalement entre l'entrepreneur et le grand groupe. C'est nous qui allons structurer la mise en relation. C'est nous qui allons chercher l'expertise nécessaire. C'est notre métier en fait. C'est vraiment notre métier d'aller chercher l'expertise en fonction des besoins.
Yes. Et aujourd'hui, c'est vous avez combien d'apprenants à peu près en 2022
qui sont en cours d'accompagnement?
Ouais, c'est par promotion ouais, ou déjà est-ce que c'est purement en présentiel? Est-ce qu'il y a une partie
alors on a une partie en ligne puisqu'on a développé un programme hybride qui s'appelle Air Starter. Donc qui est basé sur une plateforme digitale d'incubation et sur des ateliers en physique. Et donc on a les deux aspects. En fait, on a différents programmes d'accompagnement pour répondre aux demandes. Et donc on a effectivement des ateliers à la fois en physique, mais on a aussi des ateliers. C'est pas à distance puisque c'est pas notre, on fait pas trop ça. On fait un petit peu, mais l'idée c'est plutôt d'avoir du physique. Mais en tout cas, on a développé un parcours digital. Donc vraiment, c'est une plateforme qu'on a développée en interne avec nos attentes.
Yes. Donc, pour parler justement du nombre des apprenants par promo, et si vous avez combien à peu près, et c'est combien de promos par an approximativement?
Alors, en moyenne, sur une promotion, on va être à 15-16 entrepreneurs. Après, on a d'autres, sur notre programme, on est plutôt sur du flux continu. Donc là, on a à peu près une quinzaine aussi qui sont sur le programme Air Starter. Et après, on a d'autres programmes qui sont un peu plus spécialisés. On a à peu près 10 entrepreneurs qui rentrent dans le programme. Et donc là, cette année, sur 2022, on vise entre 4 et 6 promotions. Donc, c'est une soixantaine d'entrepreneurs qui sont accompagnés.
Yes. Et quand tu dis 10-15 personnes, ça suppose qu'à l'entrée, il y a combien qui ont postulé de finalement retenir que 10 ou 15
Là, par exemple, sur la promotion...
Approximativement, juste pour avoir une ordre d'idée.
Ouais, sur la promotion là, qui a démarré en mars, on a eu un peu plus d'une centaine de candidatures. Je crois qu'on était à 140 à peu près candidatures.
Ah ouais.
Et on a sélectionné 14.
C'est... Ça, c'est sélectif. Et pourquoi est-ce que c'est si sélectif?
Alors, ce n'est pas ultra sélectif, hein. L'idée, c'est plutôt de pouvoir répondre aux entrepreneurs, enfin, de pouvoir donner une réponse aux entrepreneurs. Donc, sur les 140, pour l'instant, on a sélectionné 14. Peut-être qu'on va en sélectionner un peu plus par la suite. Donc, on a fait passer, je ne sais plus, une vingtaine devant le comité de sélection. Donc, on a sélectionné 14. Donc, ce n'est pas ultra sélectif. C'est juste qu'il y a des moments où on ne peut pas répondre à certains besoins. C'est-à-dire que si notre accompagnement il n'est pas adapté, on ne va pas intégrer l'entrepreneur. On va l'orienter vers une autre structure qui pourra proposer quelque chose de plus pertinent, tu vois. On n'est pas dans un côté où on veut être ultra sélectif, ce n'est pas du tout notre positionnement. Au contraire, on veut juste répondre aux besoins. Et quand on sait que on n'est pas le meilleur dispositif pour accompagner tel ou tel profil, on préfère l'orienter vers un autre acteur.
Ok. J'ai quelques questions encore pour toi de... Déjà, est-ce que c'est quoi le plus difficile en fait dans ton job actuellement?
Le plus difficile, moi je suis dans l'humain. Je suis dans l'humain et donc c'est des rencontres au quotidien, c'est des retours des entrepreneurs. C'est parfois des difficultés aussi, donc on va dire qu'il faut aussi engranger un peu tout ça et être en capacité de prendre du recul. Et après, moi je suis sur beaucoup de choses en même temps, parce qu'on n'est pas une grosse équipe non plus, donc je suis en charge de piloter la stratégie partenariale. Donc il y a beaucoup de choses qui tombent. Donc je pense que c'est le côté un peu. Ce qui est difficile, c'est de pouvoir, ouais, c'est de pouvoir tout gérer, enfin, en tout cas être en capacité de pouvoir s'entourer peut-être des bonnes personnes pour éviter justement d'avoir à tout gérer. Et puis parfois les parcours des entrepreneurs qui ont des parcours qui sont forts, il faut aussi être à l'écoute, il faut être en capacité de pouvoir y répondre. Donc c'est beaucoup d'énergie, tu vois. Ça prend beaucoup d'énergie.
Yes. T'as dit que t'as... tu te payes quelque chose. C'est vrai que c'est une association, mais est-ce que toi, tu te verses un salaire?
Alors moi, je suis entrepreneur à côté, donc j'ai ma boîte de conseil. J'ai une boîte de conseil et de mise en relation aussi. Donc je suis salarié de ma boîte à moi, pas de l'association.
Ah, ok. Ta boîte de conseil qui est, j'imagine, partenaire de Time to Start parce que forcément, parmi les membres du parmi les apprenants, il y aurait éventuellement besoin de faire des mises en relation et c'est là où ta boîte pourrait éventuellement intervenir. Entre autres, à part les clients que tu
Alors non,
offres, quoi.
c'est pas du tout connecté. La boîte dont je te parle, elle n'est pas du tout connectée avec l'activité Time to Start. C'est vraiment une activité à part, où il n'y a pas de lien, où je mélange pas les deux, en gros. Et donc c'est vraiment à part et une mission que moi je fais à côté.
Et comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça? Déjà que l'association, c'est pas du tout évident.
Écoute, deux fois, je ne sais pas, je pose des questions.
Yes. Ah ouais, bah, dis-moi, comment est-ce que tu progresses aujourd'hui?
Comment je progresse? Alors, je pense qu'il faut garder une forme d'humilité, parce que moi, je suis encore très loin de ce que j'ai envie d'atteindre. Et donc, il faut être toujours dans cette. Quand je parle d'humilité, c'est ce côté un peu apprentissage. Il faut toujours se dire qu'on a toujours à apprendre. J'essaie d'apprendre au quotidien, à la fois des personnes qui m'entourent et puis de ce que je peux avoir comme outil à l'extérieur. Et donc, c'est ma manière pour moi de progresser, c'est l'apprentissage constant. Et l'amélioration, j'essaie de me remettre en question régulièrement et me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux qu'hier. Et puis être à l'écoute, tu vois, être à l'écoute des remarques, des retours des entrepreneurs, des partenaires. Je pense que c'est important.
Yes. Toi tu vois où est-ce que toi tu vois Time to Start dans je sais pas dans 5 ans, dans 10 ans? Tu veux emmener ça jusque où?
Écoute, j'aimerais bien le développer à l'international, en fait, tout simplement, à l'Afrique notamment. Je pense qu'il y a énormément de liens à faire avec l'Afrique et l'entrepreneuriat en Afrique. J'accompagne par exemple des entrepreneurs qui sont issus de la diaspora, qui font déjà le lien avec l'Afrique. Et je pense qu'il y a une cohérence, en tout cas, à développer le projet à l'international.
Yes. Tu as des regrets?
Est-ce que j'ai des regrets? Non, j'en ai pas. J'ai pas de regrets. Quoique, si j'en ai. Ce serait faux de. Ce serait faux. Si j'ai quelques regrets, mais aujourd'hui, je les vois comme des apprentissages. Je me dis que ça devait se faire comme ça. Je pense que ouais, ça devait se faire comme ça. Je crois beaucoup au destin, tu vois. Donc, je me dis que tout ce qui s'est passé, bah, ça devrait être comme ça s'est passé. Des fois, je peux penser effectivement à me dire ah, mais j'aurais pu faire comme ça ou j'aurais dû le dire ça. Mais au final, je me dis bah, peut-être que si je l'avais dit comme ça, bah, j'aurais pas autant appris. Si j'avais pas fait cette erreur, j'aurais pas autant appris. Donc, j'ai des regrets, mais on va dire qu'ils sont très courts et je passe vite à autre chose.
Yes. C'est quoi ta plus grande fierté aujourd'hui?
Ma plus grande fierté, ce serait un peu les retours des entrepreneurs. Quand ils viennent nous voir, ils nous disent bah, « voilà, moi j'ai réussi à me développer, j'ai développé mon activité, ce genre de choses bah, », c'est une fierté. Après, je ne sais pas si c'est ma plus grosse fierté, mais j'espère, mais je ne sais pas si c'est le cas, je ne sais pas si je l'ai atteint.
Ça peut être en dehors de l'entrepreneuriat, ça peut
oui,
être
du coup,
ton père, ta mère, ça peut être ton enfant.
Non, j'espère.
Quand tu regardes aujourd'hui, bah, tu dis « ouais ».
Ouais, du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que je ne sais pas si j'ai atteint cette plus grosse fierté, mais je pense que je pourrais dire ça lorsque, bah, je sais pas, mon père, ma mère me dirait, bah, écoute, je suis fière de toi, de ce que tu as accompli. Je pense que ça serait vraiment une grosse fierté, tu vois. Je ne sais pas s'ils le font.
Tu penses qu'ils ne sont pas fiers
Je ne sais pas, j'espère. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, bah, ce serait ça ma plus grosse fierté.
Yes. Tu aurais un bouquin à nous recommander si tu devais offrir un bouquin, ce serait lequel?
On me pose souvent cette question, il y en a plusieurs, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho.
Ah ouais, ça c'est un ce bouquin est dangereux, ça crée des divorces.
Et donc...
J'ai une amie qui me l'avait offert il y a deux ou trois ans. Elle m'a dit à l'époque, Cindy, pour la citer, je l'ai reçu aussi sur le podcast Cindy CK, on parle justement de l'intuition, elle est coach, elle est aussi coach en dev perso. Et elle, à l'époque où elle a lu ce bouquin, elle a quitté son copain, elle a pris l'avion, elle est partie complètement à l'autre bout du monde, quoi, en Asie du Sud-Est. Et puis...
Ah oui, d'accord.
C'est radical quand même.
Donc là, c'est dans toutes les...
Ouais. C'est pas pour faire peur aux gens, hein, mais c'est pour dire il y a quelque chose dans ce bouquin, une sorte de déclic, en fait. Oui. Tu as l'impression que ça débloque des choses et ça se lit rapidement. C'est un petit bouquin
ouais,
comme
exactement.
Ça se lit rapidement.
Ce que j'allais dire, c'est que c'est un bouquin qui est assez simple à lire, tu le finis en une traite, quoi, et il est pas mal. Et sinon, j'aime beaucoup... Alors, vraiment, le roman qui m'a fait vraiment aimer la lecture, c'est... je crois que je l'ai lu, j'étais en sixième ou en cinquième, je ne sais plus. C'est un livre d'Agatha Christie, qui est Le meurtre de Roger Ackroyd. Donc, ça m'a vraiment fait... j'ai énormément apprécié cette lecture. Et ça m'a donné envie de lire encore plus. Donc, voilà, c'est un petit bouquin que j'ai encore. Je crois que je l'ai depuis que j'ai 12 ans. Je l'ai toujours avec moi. Il est un peu abîmé, mais il est toujours avec moi. Et voilà, de temps en temps, je lis. Ça me fait penser à pas mal de choses.
Yes. Dans ton discours, à chaque fois, il y a quand même ce truc-là qui revient sur la diversité, sur le pouvoir de la diversité. Même dans ta com en général, j'ai vu un petit peu quelques trucs. Même je ne sais pas si tu es sur le spot de LinkedIn.
Oui.
Je ne sais plus trop où, en faisant des recherches sur toi, j'ai... En tout cas, il y avait ce truc-là qui revenait à chaque fois où tu parlais du pouvoir de la diversité, la puissance, le levier de la diversité. Et moi, pas que je ne suis pas du même avis que toi, Mais moi, j'ai déjà eu à discuter de ça avec d'autres entrepreneurs, notamment Anthony Bourbon que j'ai reçu ici ou Alex Pachulski. Les quotas, est-ce que toi tu penses que le fait de mettre des quotas, on en a parlé même aussi avec Grégory Puy de Vlan, est-ce que le fait de mettre des quotas, c'est aussi une forme de réponse ou alors ça peut être quelque chose de pervers qui pourrait complètement retourner le système à l'envers par rapport à ce dont on essaye de résoudre comme problématique actuellement.
Alors,
Je sais pas si tu
oui, je
comprends la
vois tout à
question.
fait, parce que c'est des vrais débats, hein, tout ça. Déjà, pour revenir sur le terme.
Et moi, je pose la question, je connais pas, hein, j'ai pas de
Oui,
réponse.
bien
C'est
sûr.
juste que ben moi ça, je la question mérite au moins d'être posée et j'arrive pas à y répondre et je t'avoue que ça m'effraie un peu même des fois.
Alors, déjà, sur le terme de, entre guillemets, diversité, je sais qu'il y a débat, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'apprécient pas ce terme. Je peux comprendre. Moi, je parle plutôt, j'aime bien dire les termes, tu vois, des personnes qui sont, par exemple, issues de la diaspora, des gens qui sont issus des quartiers. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise de manière assez, je sais pas si c'est galvaudé, mais en tout cas, le terme diversité. Pour revenir à ton point, sur les quotas, j'ai jamais essayé de promouvoir ce système de quotas. Maintenant, il y a une loi qui est passée, qui est notamment sur la l'égalité homme-femme, qui impose, qui veut souhaite imposer les quotas en entreprise, dans les COMEX et tout. Et a priori, ils se sont dit que c'est la seule solution pour faire bouger les lignes, tu vois. Moi, donc, je pense que personne à la base est pour les quotas, parce que ça paraît aberrant en fait de vouloir mettre en place des quotas. Pour avoir plus d'égalité ou autre. Ça paraît même complètement irréaliste. Maintenant, il s'avère que quand on met en place des quotas, ça commence à faire bouger un peu les lignes parce on peut avoir des femmes qui sont bien placées et qui peuvent, elles, derrière, faire bouger les choses.
Des rôles
Exactement, et
modèles,
qui peuvent
ouais.
avoir, elles, de l'impact. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure solution sur.
Mais jusque où en fait, c'est comment où est-ce qu'on met le curseur? Est-ce qu'il y a un moment où on dit ok, à partir de maintenant, stop, vu qu'on a rééquilibré les choses et que on a travaillé en amont sur l'égalité des chances dans la possibilité pour que tout le monde ait la même ligne de départ. Et j'avoue que ça, j'arrive pas à y répondre. Et ça, t'écoutes de tout, hein, des extraits, t'écoutes de tout et son contraire en même temps. Greg qui va par exemple te dire, dans l'histoire de l'humanité, t'as plus de 10 000 ans que ça date même d'avant Jésus-Christ, cette domination en fait des minorités. Que même s'il faut penser justement à l'inversion des choses. Ben, c'est pas dans notre génération quoi que ça va se faire probablement dans les prochaines générations d'ici je sais pas 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Donc c'est pas un sujet on doit à fond être avec les quotas pour permettre de rééquilibrer les choses et créer davantage de rôles modèles pour permettre aux autres de pouvoir rêver et eux aussi de s'insérer dans cet écosystème-là quoi.
Oui, c'est sûr qu'on est encore très loin, c'est sûr. Donc, je ne sais pas, j'espère qu'on n'aura plus ces débats dans quelques années, même si bon, j'en doute, mais j'espère qu'on n'aura plus effectivement à mettre ces points-là sur la table, qu'on n'aura plus à créer du contenu lié à la nécessité de travailler sur plus de diversité, sur plus d'égalité, des chances. Donc, on espère qu'un jour, on n'aura plus besoin de structures. Comme les nôtres pour avoir, on espère bien. Maintenant, on sait qu'aujourd'hui, on en est encore très loin, tu vois. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que moi, je ne suis pas trop dans l'idée de faire des débats sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut. Moi, je suis plus dans une optique d'être dans l'action, donc de tester des choses. On teste, on voit ce que ça donne. Ça ne
Action.
marche pas, on change, on modifie. Donc, je ne sais pas quelle est la meilleure solution, tu vois. Moi, j'ai des idées. Je ne sais pas si ça marche ou pas.
Yes.
Mais en tout cas, je suis plus dans une optique d'essayer de mettre en place, de faire changer les choses et voir ce que ça donne. Et puis, si ça ne marche pas, tant pis, on recommence, tu vois. Et donc, on peut faire 10 000 débats sur est-ce qu'il faut des quotas, est-ce qu'il ne faut pas de quotas, est-ce qu'il faut imposer des choses ou pas, est-ce qu'il faut promouvoir. On ne sait pas en réalité. C'est que le terrain qui peut parler. C'est comme quand on entreprend un projet. Ce n'est pas un business plan qui va te dire que ça va marcher ou pas. C'est le terrain, c'est le marché, c'est le client. Et donc, quand on est dans des politiques comme ça, je pense qu'il faut essayer de mettre en place des choses. Donc, par exemple, les quotas, la loi sur les quotas, on peut se dire que a priori, ça nous paraît complètement inadapté, réaliste. Mais des fois, je me dis, ben, pourquoi pas tester ? Ça marche, ben, c'est super. Ça marche pas, ben, on tentera autre chose. Donc, on sait qu'il y a un problème. On sait qu'on doit faire bouger les choses. Donc, qu'est-ce qu'on met en place ? Ce n'est pas sur quoi on va débattre encore une fois pendant 10 ans. Non, il faut qu'on arrête à un moment donné de débattre et qu'on se met en mouvement tous ensemble.
Yes. Ah ouais, est-ce que tu aurais... un dernier mot pour cette génération, quelque chose d'impérissable, une bouteille à la mer.
Moi, ce que je dis tout le temps, c'est que entreprendre, c'est agir avant tout. Donc, quand on a des idées, il faut être dans l'action, il faut essayer de mettre en place, il faut bien commencer par quelque part. Donc, il faut être en capacité de se débrouiller avec ce qu'on a pour atteindre les sommets. Donc, à tous ceux qui ont une idée, à tous ceux qui ont envie de faire bouger les choses, à tous ceux qui ont envie d'entreprendre, à tous ceux qui veulent, travailler dans tel ou tel métier, allez-y. Ne vous bridez pas. Allez-y. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et puis, si ça ne marche pas comme vous l'avez imaginé, au moins, vous aurez appris de tout ça. Donc, il n'y a pas de mauvaise expérience, entre guillemets. C'est un peu le message que je souhaite faire passer.
Nice. Où est-ce qu'on te contacte
Alors, je suis très connectée sur LinkedIn. Contactez-moi sur LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn. Et après, sinon, via notre site internet, par exemple, si vous êtes intéressé par Time to Start, il y a des formulaires de contact ou de candidature. Il suffit de les remplir et on vous contacte.
Yes, on va mettre tous les liens en description. Awa Dramé sur LinkedIn et timetostart.fr. On va mettre tout ça en description de l'épisode. C'est drôle, quand je faisais des recherches sur toi, en tapant sur Google, je suis tombé plutôt sur une musicienne. Elle a exactement le même nom, Awa Dramé. Tu connais ?
Alors, tu sais, les Awa Dramé, c'est un nom qui est extrêmement commun. Tu vois. Parfois, on me contacte, tu sais. On me dit, oui, salut Awa, on s'est rencontrés hier à tel événement, je vais me connecter avec toi. Je dis, non.
Ouais. Ah bon, ensemble, Awa et Dramé en même temps.
Oui, Awa Dramé, c'est
tout le tout quoi, pas juste Awa et Dramé, ouais, les deux tout, quoi.
Alors Dramé, c'est un nom qui est très commun en Afrique de l'Ouest, et Awa aussi, c'est un prénom qui qui est très commun, ce qui fait que tu as beaucoup d'Awa Dramé avec un. Donc quand tu tapes Awa Dramé, effectivement, tu dois avoir des rien que dans la ville où j'ai grandi, je crois, je sais pas combien d'Awa Dramé. Et donc du coup, parfois, on me contacte en me disant salut, on s'est vu hier. Ça va bien et tout. Et je sais que c'est pas moi, tu vois. Donc je dis non, c'est pas hier. Je pense que tu confonds d'Awa Dramé. Ouais. Donc c'est marrant. Mais maintenant, je suis habituée, tu vois. Donc je sais gérer.
Yes. Écoute, Awa, ce podcast s'appelle Débrouillard. C'est quoi pour toi un débrouillard ?
Un débrouillard, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui est ambitieux. C'est quelqu'un qui fait, pour moi. Quelqu'un qui se débrouille. C'est quelqu'un qui travaille. Pour moi, la notion de travail, elle est très importante parce que dans tout projet, en réalité, personne ne va se lever à ta place pour faire. Donc, si tu ne bosses pas, si tu ne te réveilles pas en disant « je vais trimer », ça ne marchera pas. Donc, un débrouillard, c'est quelqu'un qui y va, qui ne lâche pas, qui est résilient, qui est sûr de sa force et qui est à fond, qui est ultra motivé.
Écoute, Awa, je te remercie pour ton temps et pour tout ce partage. Awa Dramé, timetostart.fr. Merci, Awa.
Merci à toi. À très vite.
À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Débrouillard jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. On adore vous lire, donc allez mettre une note 5 étoiles et un gentil commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Je vous rappelle aussi que vous pouvez vous abonner à la newsletter sur debrouillard.io/mail. Je vous envoie chaque dimanche le nouvel épisode directement dans votre boîte mail avec de vrais bons plans.
Pour finir, si vous avez besoin d'un soutien opérationnel approfondi dans le financement, l'administration ou le management de votre structure afin de prendre le leadership sur votre marché, toute la team d'Investir à plusieurs va vous chuchoter comme il se doit. Il suffit pour cela de nous écrire à l'adresse suivante, debrouillard@investiraplusieurs.com. Je suis Guy Berthol et à bientôt pour un prochain épisode.
Investir à plusieurs.